vie de Jésus, cette vie incomparable de pureté et de dévouement pour l'humanité, s'éteignit sur la croix, mettant fin à un ministère trop bref, un ministère qui néanmoins a marqué l'histoire et les expériences humaines comme personne d'autre n'a pu le faire. Pourquoi était-il nécessaire que Jésus meure de cette manière? Quelle signification a sa mort par rapport au salut divin? Nous allons discuter ces questions. Ces programmes vous sont offerts par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, éditeur des publications Aurore.
Merci Thomas. Cette semaine, le monde célébrera la Pâque, et la mort de Jésus, si merveilleusement dépeinte, mit fin à la vie la plus sublime qui ait jamais existé. Mais comme la Bible le démontre, ce ne fut que la fin de sa vie humaine, ainsi que nous le verrons au cours de notre étude de la semaine prochaine. Thomas, as-tu remarqué que Jésus atteignit sa plus grande popularité juste quelques jours avant sa crucifixion?
Tu penses certainement au moment où Jésus entra à Jérusalem assis sur un ânon et fut acclamé roi.
Oui.
C'est plutôt paradoxal, ne penses-tu pas, que Jésus, si grandement honoré, ait été crucifié quelques jours plus tard?
Oui, mais tout se passa en accord avec le plan divin. Jésus vint dans le monde pour être roi, quoiqu'il fût né dans une étable.
N'est-ce pas son entrée triomphale comme roi à Jérusalem qui est commémorée le dimanche des Rameaux?
Si, et ce grand événement dans la vie du Maître est annoncé dans l'Ancien Testament par le prophète Zacharie au chapitre 9, verset 9. Voudrais-tu nous lire cette prophétie?
Avec plaisir. Le texte dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. »
Et c'est de ce roi qu'il est question dans le verset suivant de la prophétie de Zacharie, qui dit « Qu'il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Christ n'a pas encore apporté la paix aux nations, quoique la première partie de la prophétie se soit accomplie au moment de l'entrée de Jésus à Jérusalem quand il fut acclamé roi.
Et comme le rapporte le récit, c'est peu de temps après que Jésus fut arrêté et mis à mort. Pourtant, ceci ne déjoua pas le dessein divin d'instituer Jésus comme roi de toute la terre, au temps prévu par Dieu. Mais Pierre, n'est-ce pas justement parce qu'il se disait roi qu'il fut accusé et mis à mort?
Bien sûr. C'est devant Pilate, le gouverneur romain de la Judée, que Jésus fut accusé d'aspirer à la royauté. Le récit de ces événements se trouve au 18e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 28 à 38. Thomas, je pense qu'il serait bon de lire le 37e verset.
Avec plaisir, Pierre. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. »
Oui, mais il expliqua à Pilate que son royaume n'était pas de ce monde. Car si c'était le cas, ses serviteurs auraient combattu pour lui, pour empêcher qu'il soit livré aux Juifs et crucifié. Ainsi, en confirmant à Pilate qu'il était roi, Jésus volontairement se livra à la mort.
Mais malgré tout, il eut entière confiance dans les promesses de Dieu qui lui assurait qu'il serait roi, gouvernant un royaume universel, n'est-ce pas?
Oui, il le prouve par la réponse qu'il fit aux brigands pendant qu'il mourait sur la croix. Selon le récit, deux brigands furent crucifiés avec lui, un de chaque côté. L'un d'eux lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. »
Tu sais, Pierre, souvent je me suis demandé ce que le brigand pouvait savoir du royaume du Christ.
Le récit dit que, sur l'ordre de Pilate, une inscription fut placée sur la croix, indiquant que Jésus était le roi des Juifs. C'est sans doute cela qui lui fit faire cette requête. Un homme mourant saisit chaque lueur d'espoir.
Pourtant, Jésus ne prit pas cette requête à la légère. Il dit au brigand, « Tu seras avec moi au paradis. » Pierre, pourquoi Jésus dit-il cela? Le brigand ne parlait pas du paradis. Cependant, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. »
Thomas, indirectement, le brigand demandait d'être au paradis, car le royaume de Christ rétablira les conditions du paradis sur la terre. L'utilisation par Jésus des mots « en vérité » dans sa réponse au brigand signifie que la requête de ce dernier était faite à propos et sera accordée. que le royaume messianique sera établi au temps prévu par Dieu, que sous son gouvernement, le paradis édénique, perdu par nos premiers parents, sera rétabli, et qu'alors, le brigand ressuscitera et aura l'occasion de jouir de ses bénédictions.
Ceci révèle sa grande confiance dans le fait qu'il était né pour être roi. Mais Pierre, beaucoup de personnes pensent que le brigand alla au paradis ce jour-là.
C'est dû au fait que la virgule fut mal placée dans quelques traductions de la Bible. Le texte dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Mais place la virgule où elle doit être, et on lit « Je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis ».
Ceci marque le jour où Jésus fit la promesse, plutôt que le temps de son accomplissement.
C'est très juste. Ce fut un triste jour pour Jésus. Il fut mis à mort. Du point de vue humain, ce fut la fin de toute possibilité de devenir roi et d'établir son programme, son royaume universel. Mais il savait que Dieu le ressusciterait et que son royaume serait établi plus tard. Et c'est ainsi qu'au jour le plus triste, il put dire au brigand « Tu seras avec moi au paradis ».
Pierre, c'est merveilleux de réaliser combien Jésus avait confiance dans le plan de son Père céleste. En lisant le récit de sa crucifixion, je note que certains de ceux qui étaient là pour le voir mourir s'écrièrent « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même ». Si Jésus avait pu se sauver, aurait-il donné suite à cette clameur ?
Jésus avait le pouvoir d'accomplir des miracles, mais il a toujours refusé d'utiliser cette puissance pour lui-même. Par son refus de sauver sa vie, il a pourvu au salut de l'humanité, y compris celui des ennemis qui le crucifièrent. En continuant notre étude des livres du Nouveau Testament, nous verrons que ceux-mêmes qui crièrent « Crucifie-le, crucifie-le » bénéficieront de la miséricorde divine.
Comme ceci augmente notre appréciation de l'amour et de la miséricorde divine. Pierre, je trouve également dans ce récit rapporté par Marc, l'exclamation de Jésus sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc, chapitre 15, verset 34. Le Père céleste abandonna-t-il réellement son Fils, cloué sur la croix ?
Cette expression, Thomas, est en réalité une citation d'une prophétie de l'Ancien Testament concernant l'expérience de Jésus tandis qu'il était sur la croix. Elle se trouve au psaume 22. En citant cette prophétie, Jésus montra qu'il reconnut son accomplissement dans l'expérience par laquelle il passait. Cette réalisation fut sans doute réconfortante pour Jésus. Cependant, puisqu'il mourait à la place du pécheur, il fut nécessaire qu'il souffrît toute la peine du péché, y compris, ne fût-ce que pour un instant, le retrait de la faveur divine. Une autre prophétie remarquable concernant la mort de Jésus se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, particulièrement aux versets 8 et 9. Voudrais-tu nous les lire, Thomas ?
Certainement. Et notre foi s'accroît en constatant l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans les expériences de Jésus. Les versets 8 et 9 disent « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple ? On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche. » Pierre, n'est-il pas vrai que Jésus ait été effectivement placé dans la tombe d'un homme riche ?
Oui, et il est important de se rendre compte, comme le prédit le prophète, que dans la mort, Jésus se trouvait avec des malfaiteurs, soi-disant pour prendre leur place dans la mort. Au 12e verset du chapitre 53, le prophète déclare qu'il s'est livré lui-même à la mort.
Pierre, est-ce l'âme de Jésus qui mourut sur la croix ?
Selon la Bible, oui. Mais n'oublions pas, Thomas, que le mot « âme » veut dire, comme l'atteste la Bible, un être vivant. Il figure pour la première fois dans la Genèse, chapitre 2, verset 7, où il nous est dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante.
Cela signifie que l'homme est une âme, ou un être vivant, et Jésus, comme être vivant, mourut sur la croix afin de racheter l'humanité. Mais Pierre, après que Jésus s'adressa à son Père, disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il a dû retrouver le sourire de son Père céleste, car ses dernières paroles sur la croix furent « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Comment pouvait-il remettre son esprit entre les mains de son Père ?
La pensée est qu'il remit sa vie dans les mains de son Père. Jésus savait qu'il serait incapable de faire quoi que ce soit dans l'état de mort, que seul son Père pouvait le ressusciter. Aussi l'expression « Père, je remets mon esprit entre tes mains » dénote qu'il mettait entière confiance en Dieu, qui le ressusciterait de la mort et l'établirait roi d'un royaume universel de paix et de justice.
Pierre, le récit dit qu'après avoir prononcé ces paroles, il rendit l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Le mot grec, traduit ici par « esprit », veut dire « le souffle » ou le souffle de vie qui fut donné à Adam et à tous les hommes. Rendre l'esprit signifie simplement mourir, et ce fut le cas pour Jésus. Il mourut pour que toi et moi et tous les êtres humains puissent avoir la vie. Voilà quelques-unes des pensées contenues dans l'article « La venue du Sauveur sur la terre ». Thomas, voudrais-tu en parler à nos amis ?
Mais certainement, Pierre. Chers amis, l'article « La venue du Sauveur sur la terre » ou « Le Libérateur vient » présente les faits concernant l'existence préhumaine de Jésus, sa naissance, son enfance, son ministère, son supplice et finalement la résurrection des morts. C'est le cinquième d'une série d'articles qui étudie tous les livres de la Bible. Cet article traite les quatre premiers livres du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Comment savons-nous que Jésus avait une existence préhumaine ? Pourquoi devait-il devenir chair pour pouvoir délivrer la race humaine de la mort ? Quelle signification importante est-elle pour nous, ainsi que ses guérisons miraculeuses ? Le temps viendra-t-il où la maladie n'existera plus ? Qu'est-ce que l'enfer de la Bible et qui va en enfer? Comment Jésus illustra-t-il le fait que nous nous reconnaîtrons à la résurrection? Ce ne sont là que quelques-unes des questions dont vous trouverez la réponse dans l'article « La venue du Sauveur sur la terre ». Demandez un exemplaire gratuit. Demandez l'article « La venue du Sauveur sur la terre ». Il vous sera envoyé gratuitement et franco, sans obligation de votre part. Ce programme d'études bibliques vous est offert par l'Association des étudiants de la Bible, éditeur de la revue Aurore. Nous serons à nouveau avec vous la semaine prochaine à la même heure. Dites-le à vos amis et que Dieu vous bénisse tous.